Bonjour à tous, auditeurs, auditrices de la Radio Adoration. Bienvenue à cette autre émission podcast sur l'édition coronavirus. On pourrait appeler ça l'édition COVID-19. C'est un podcast tout spécialement dédié à la pandémie mondiale qui nous touche actuellement. Parce que, au travers de ce qui se passe actuellement, outre la maladie elle-même, outre le désordre, outre l'angoisse, outre la détresse, et tous les ravages que cette maladie peut causer, il y a également un message divin au travers ça, et il y a Dieu qui tente de nous expliquer des choses, de nous démontrer des choses, de nous faire avancer personnellement, mais aussi collectivement, dans une pensée unique envers lui-même, envers Jésus, son Fils unique. Donc, c'est là que nous voulons vous amener au niveau de ces messages podcast. Il y a d'autres personnes qui font des prédications sur Internet, qui prêchent l'Évangile d'une toute autre façon, mais toujours le vrai et bon Évangile. Et ces personnes font un travail incroyable, extraordinaire. Je les remercie. Et chacun, je crois que nous avons notre département. Et moi, eh bien, c'est vraiment de m'attarder au message de Dieu à propos de ce qui se passe actuellement sur le coronavirus, cette pandémie mondiale qui nous touche. Vous savez que Dieu, depuis la création du monde, a toujours eu un seul et unique plan depuis le début, et puis Dieu s'est attaché à ce plan et Dieu ne déroge pas à ce plan. Ce plan, eh bien, c'est que tout homme parvienne à une repentance parfaite, à une relation parfaite avec lui, et que lors de l'avènement de son Fils unique Jésus-Christ, eh bien, que tous soient prêts à le recevoir dans sa gloire, que tous soient convertis fidèlement, sincèrement envers lui, que tous puissent également le chercher là où il se trouve, du mieux qu'ils le peuvent pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. C'est un message qui est très large, c'est une attente qui est très large de la part de Dieu, mais en même temps une attente tellement précise, c'est pas compliqué. Le retour de Jésus-Christ, c'est pour bientôt, et Dieu a toujours travaillé en ce sens que tous nous avons une date de naissance, tous nous avons une date de péremption qui s'appelle la mort, et le monde également, la création, le monde a eu une date de création, mais il y a aussi une date de péremption, et cette date de péremption-là, eh bien, s'appelle le retour de Jésus-Christ, parce qu'après ça, lorsque la date de péremption sera passée, eh bien là, on parle de destruction. Vous savez, lorsque une pinte de lait, la date de péremption est passée, eh bien par après, le lait commence à perdre de sa qualité, le lait commence à tourner, à sentir mauvais, à devenir plus épais, bref, il devient imbuvable. Eh bien, c'est la même chose au niveau du monde, au niveau de ce qui nous attend après le retour de Jésus-Christ. Mais même ça, le retour de Jésus-Christ lui-même, eh bien, ça sera un jour terrible, terrible. Mais avant même de parler de ce jour terrible, glorieux et terrible en même temps, devrais-je dire, il y a quatre questions, moi, qui me viennent à l'esprit lorsque je pense au retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vous pose la question et interrogez-vous vous-même. Avez-vous hâte, sincèrement, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, avez-vous hâte au retour de Jésus-Christ? Êtes-vous excité à l'idée de son retour? Comment entrevoyez-vous son retour? Et comment considérez-vous ou anticipez-vous son retour? Vous l'anticipez avec joie, avec crainte, avec un certain doute? Alors, toutes ces questions-là, eh bien, ce sont des questions que l'on doit se poser. Parce que la venue de Jésus, c'est pour bientôt. Et c'est Jésus lui-même qui a annoncé dans l'Évangile la venue du Fils de l'homme. Les premières communautés chrétiennes pensaient d'ailleurs que le retour de Christ et la fin des temps étaient imminents. Lorsqu'on lit l'Acte des Apôtres, on peut le voir clairement. Donc, chacun d'eux pensait que le retour de Christ, la fin des temps, était imminent. Et avait donc pour principale activité de prier en vue de cet événement, parce que tous croyaient que de leur vivant, ils verraient la venue de Jésus. Et là, pour comprendre un peu, il faut faire un peu de recherche au niveau de l'étude du grec. C'est pas vraiment mon genre, c'est pas ma tasse de thé de rentrer dans ces choses-là. Mais juste pour donner un sens au retour de Jésus. Il y a des mots, entre autres, « Maranatha », qui veut dire « Seigneur, viens ». Un thème qui est souvent utilisé par des gens, je vois ça souvent sur Internet, lorsque j'allais beaucoup sur Internet, des gens qui, pour rendre gloire à Dieu, au lieu de dire « Amen », des trucs du genre, disaient « Maranatha », comme ça, un peu comme on dit « Abracadabra ». Et puis, bon, mais le vrai sens de « Maranatha » veut dire « Seigneur, viens ». Ce retour, donc, désigné par le terme « parousie » du grec « parousia », qui veut dire « présence, avènement ». Voyez-vous déjà le sens, comment les choses se présentent? Donc, tout ça, eh bien, pour la foi du chrétien, c'est, comment pourrais-je dire, l'accomplissement, oui, l'accomplissement définitif du retour du règne, du retour de Jésus, du règne de Dieu sur terre. Parfois décrit par Paul comme sa manifestation. En grec, on dit « épiphanie » ou encore « révélation » qui, en grec, nous disons « apocalypse ». Alors, vous voyez que le mot « apocalypse » se retrouve là. Tout ça, eh bien, le retour de Jésus dans sa gloire viendra clore l'histoire du monde, mais aussi l'impatience des premiers croyants se heurte à une réalité. Le retour du Christ se fait attendre. Mais en même temps, cette attente cause aussi une distorsion dans l'esprit des gens. Et plusieurs finissent par dire à un moment donné, « Non, mais ça fait des milliers d'années qu'on attend et il n'est jamais venu. » Et là, certaines personnes commencent à créer un doute dans leur esprit, à se détacher un peu de cette attente. Et puis, tout ça apporte quand même son autre problème et nous allons y revenir au cours de l'émission. Jésus lui-même, cependant, avait dit dans Matthieu 25, 13, « Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. » Alors, lorsque nous prenons connaissance de ça, dès lors, les communautés découvrent que le royaume qu'ils attendent est à la fois déjà là et pas encore là. Vous allez dire, « Oh, mes frères Vachon, vous débloquez. » Je vous explique. Dans leur vie quotidienne, les chrétiens font eux aussi l'expérience du royaume. Ils sont, en quelque sorte, le royaume sur terre, parce que nous sommes tous les membres de Jésus-Christ, les membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes son corps. Donc, nous sommes le royaume sur terre. Et il y a bien sûr le vrai royaume, le royaume de Dieu avec Dieu lui-même et Jésus qui, lui, se fait attendre. En même temps, cette vie est encore bien imparfaite, évidemment. Et comme le racontent les Actes des Apôtres, souvenez-vous d'Ananias et de son épouse qui détournèrent une somme d'argent. Ils avaient vendu leur terrain. Ils ont détourné une somme d'argent aux dépens de la communauté et moururent le jour même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens au milieu de l'Église qui anticipent, qui attendent le retour de Jésus, mais qu'en même temps, ils se disent, bon, on peut peut-être aller un petit peu à gauche, à droite, faire ceci, faire cela, on a encore du temps. Ça aussi, nous allons y revenir plus tard. Aujourd'hui, il est encore impossible de savoir quand aura lieu le retour du Christ. Comme souvent, les critères de temps, les critères chronologiques, ont du mal à identifier correctement, à rendre compte de la présence divine dans le monde. D'ici là, eh bien, les chrétiens, eux, se sentent appelés à œuvrer pour la venue du jour de Dieu, à poursuivre leur participation à la création, bien sûr, puisque nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte le royaume sur terre. Il ne s'agit plus ici de l'attente passive d'un événement extérieur et étranger, mais bien d'une humanité qui devient partie prenante de l'avènement du royaume. Ainsi donc, attendre le retour du Christ, eh bien, c'est vivre selon l'Évangile, tout simplement, frères et sœurs en Christ. Quant à la fin des temps, elle, qui coïncidera selon les Écritures, avec la parousie, l'avènement, eh bien, elle se manifesterait par un temps d'épreuve, de catastrophe. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc, une période apocalyptique, c'est-à-dire de révélation divine également. C'est exactement ça que je vous expliquais au début de l'émission, lorsque je parle d'événements de catastrophe apocalyptique, comme ce qui nous arrive avec la pandémie, tout ça, eh bien, il y a également une révélation divine dans ça. Il y a un message que Dieu nous adresse. Dieu nous appelle à retourner à lui, à faire attention à nos pas, à nos démarches, à nos choix, à nos paroles, à nos croyances, à notre foi, et à se diriger vers lui, à diriger nos pas vers lui, pour aller le retrouver, se repentir, lui demander pardon, dire « Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pendant toute cette vie, j'ai vécu à ma manière. J'ai péché contre toi, et maintenant je veux vivre à ta manière, à toi, Seigneur, selon l'Évangile. » C'est là le message divin au travers de la situation d'angoisse, de détresse, situation apocalyptique que nous vivons actuellement. Et même ça, je dois vous dire, frère et sœur en Christ, que c'est même pas terminé. Il y aura pire encore. Voyez-vous, frère et sœur en Christ, si les écrits bibliques mentionnent ces événements, c'est parce que, à la manière dont le Christ est passé par la mort, pour ressusciter victorieux, il est mort pour nous, il a souffert pour nous. Eh bien, son retour triomphal, que nul n'est capable d'imaginer, personne n'est capable d'imaginer ce que le retour de Jésus aura l'air. Eh bien, ce retour sera un profond changement, un profond bouleversement. Dire que le retour du Christ surviendra dans un grand bouleversement, c'est faire comprendre que le monde ancien se brise, en quelque sorte incapable de contenir la nouveauté et la puissance du règne de Dieu. Je vous répète ce passage. Dire que le retour du Christ surviendra dans un grand bouleversement, c'est la réalité. Mais c'est faire comprendre que le monde ancien se brise, le monde ancien se désagrège, le monde ancien va tomber pour faire place à la nouveauté, à la puissance du règne de Dieu. Mais cette nouveauté, cette puissance sera incapable à contenir pour les humains qui sont sur la terre actuellement. Et c'est pourquoi que nous, les chrétiens qui auront cru, nous, les chrétiens qui ont la foi, nous serons enlevés avec Jésus à ce moment-là. On peut mesurer ce que représente ce passage en le comparant à l'arrivée dans l'inconnu d'un tout nouvel environnement que constitue pour le nouveau-né la sortie du ventre maternel. C'est semblable à une traversée qui nous attend. Vous savez, lorsque le nouveau-né sort du ventre de sa maman, le nouveau-né était confortablement reclus, protégé dans le ventre de sa maman. Et tout à coup, survient des douleurs et cet enfant doit passer par un étroit passage pour ressortir dans le monde. C'est là du ventre de sa mère. Il quitte cette paix qu'il avait pour entrer dans un monde tourmenté, un monde rempli d'angoisse, de détresse, un monde rempli de péché. Eh bien là, dans ce cas, eh bien, nous-mêmes, notre passage au travers ce canal étroit, comme la naissance du bébé, eh bien, ça c'est le retour de Jésus. Il y aura des moments difficiles avant le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, eh bien, c'est lorsque l'enfant arrive dans le monde. Contrairement à l'enfant humain qui lui tombe dans un monde de désordre, de détresse, d'angoisse, nous allons nous retrouver dans un monde de paix, de bonheur, de joie, de douceur. Vous savez, il ne s'agit pas ici d'une fatalité, mais d'une invitation à faire le bien et à bâtir l'avenir plutôt que de rester spectateur. De cette manière, le retour de Jésus-Christ s'inscrit dans la foi chrétienne, non pas comme un épisode annoncé, mais comme une espérance, une attente, une fébrilité dans un monde en attente de tout ce moment glorieux que sera le retour de Jésus. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui sont à côté, et c'est pourquoi la Bible dit qu'il en sera comme au temps de Noé et de l'eau, de Lot. 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le mot « difficile » déjà la parle par lui-même. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous allez dire, frère Mario, depuis le début, vous nous revenez sans cesse avec Matthieu 24, avec 2 Timothée 3. Oui, parce que c'est la vérité sur la fin des temps, c'est ça qui se passe, c'est dans ça que nous sommes. Est-ce que les hommes ne sont pas égoïstes? Est-ce que les hommes ne sont pas amis de l'argent? Est-ce que les hommes ne sont pas fanfarons, hautains, blasphémateurs actuellement, rebelles à leurs parents? Est-ce que les hommes ne sont pas ingrats, irreligieux? Est-ce que les hommes ne sont pas insensibles, déloignaux, calomniateurs, intempérants? Est-ce que les hommes ne sont pas cruels, ennemis des gens de bien? Est-ce que les hommes ne sont pas traîtres, emportés, enflés d'orgueil? Est-ce que les hommes n'aiment pas vraiment le plaisir plus que Dieu? Pour certains, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, oui, oui et oui. Alors voilà pourquoi je martèle ce message. 1 Timothée 4.1 nous dit également, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 2 Timothée 4.3 nous dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Est-ce que ces choses ne sont pas réelles, frères et sœurs en Christ? Oui, 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 et oui encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés lorsque je dis ces choses-là. Beaucoup de gens sont fâchés, se sentent touchés, accusés, visés. Mais regardez, si le chapeau vous fait, mettez-le. Si le chapeau ne vous fait pas, eh bien, ne vous inquiétez pas avec ça. Mais si vous vous sentez touché, eh bien, faites une introspection à l'intérieur de vous et vérifiez s'il n'y a pas des choses à changer dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous aider à identifier ces choses. Vous savez, Dieu rendra à chacun selon sa conduite. Dieu rendra à chacun selon sa conduite. Pourtant, je lisais récemment Jérémie 16, versets 10 à 12. J'aime tellement ce passage parce que ça nous ressemble tellement. Jérémie 16, 10 à 12 nous dit, « Lorsque tu annonceras à ce peuple ces choses, ils te diront, « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? » Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Mes amis, ça me fait penser à un président que je connais, oui. Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Nous sommes blancs comme neige, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas péché. Le verset 11 nous dit, « Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés auprès de d'autres dieux. » D'autres dieux ici, frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'aller se confier dans Bouddha, dans Krishna, dans des trucs comme ça. Les dieux, ce sont des idoles. Les idoles prennent n'importe quelle forme. Ça peut être boisson, ça peut être drogue, ça peut être sexe, ça peut être accro de la télévision, accro des réseaux sociaux, peu importe. Tout ça, lorsque ces choses prennent le contrôle de nos vies, deviennent des idoles, des dieux. Ils sont allés auprès d'autres dieux. Ils les ont servis, ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Écoutez le verset 12. Et vous, ça c'est nous là, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. » Jérémie 16, 10 à 12. Tout ça, ça m'amène à vous poser quelques questions. Et ces questions, je me les pose moi-même. Évidemment. Parce que tous, nous avons un travail d'introspection, de méditation. Nous devons creuser en nous-mêmes pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Et là, je m'adresse à toi qui m'écoutes actuellement. Oui, toi. Que penses-tu de ces paroles solennelles, homme du monde, qui ne t'attache qu'à suivre les penchants de ton cœur, à rechercher les plaisirs, à satisfaire tes désirs et qui oublie Dieu? Que penses-tu de ces paroles? Qu'en penses-tu, toi, qui professe être chrétien, qui pour un temps a été attiré par la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou bien qui trouve un certain avantage à maintenir les convenances religieuses extérieures, mais qui sait très bien au fond de ta conscience que ta profession de foi n'a aucune réalité, aucun fondement solide, et que dans ton cœur, il n'y a aucun attachement véritable à Jésus de Nazareth. Et toi, homme affairé du siècle, attaché aux choses du monde, qu'en penses-tu? Toi qui n'as pas le temps de penser au Fils de Dieu, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qu'en penses-tu? Et vous tous, qui négligez un si grand salut, comme la Bible nous dit, que ferez-vous au jour des rétributions? Que deviendrez-vous alors? Où seront ces plaisirs qui vous entraînent? Cette profession de religion par laquelle vous vous abusez, ces affaires qui aujourd'hui ont pour vous une importance si néfaste et regrettable. Et toi, enfant de Dieu, qui dans un cœur honnête et bon retient avec humilité sa parole et marche en lui soumettant toutes tes pensées, quelle perspective ouvre devant toi la venue du Seigneur? Seul tu peux regarder avec calme le bonheur vers ce jour qui n'est pas éloigné. Tu entreras alors dans la joie de ton Maître. Frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, où en êtes-vous? Que vous y croyez ou non, le Fils de l'homme va revenir et rendra à chacun selon sa conduite. Apocalypse 22:12 nous dit « Voici, je viens bientôt, bientôt! Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Les signes nous parlent. Allez dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Allez lire 1 Thessaloniciens 5. Allez dans Apocalypse. Allez lire tout partout. Bon, fouillez dans votre évangile. Partez, lisez, recherchez. Vous allez voir combien il y a de passages qui nous citent cet événement, qui nous parlent de la fin des temps et qui fait allusion au retour de Jésus. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Joël 2 dit lui-même, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? J'aimerais maintenant vous faire entendre un son que j'adore. Écoutez bien ce son. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien ce son. Wow! Ouf! chaque fois que j'entends ce son. Je ne peux pas expliquer comment je me sens, mais je sais que, à l'intérieur de moi, là, il y a plein de sentiments qui se bousculent. La chair de poule. Sentiment de paix, de quiétude, d'assurance, de joie, une fébrilité, une excitation. Et cela malgré l'inconnu. Car oui, à l'inconnu derrière tout ça, nous savons que nous avons la vie éternelle, mais il y a l'inconnu. L'inconnu, il apparaît, car personne ne peut imaginer vraiment la beauté de ce que sera notre vie dans le royaume de Dieu, ne connaissant qu'en partie. Donc, même si on se fait des images du royaume de Dieu, on imagine les choses de telle façon, de telle façon, de telle façon. On ne peut vraiment pas imaginer quelle sensation nous aurons lorsque nous serons enlevés dans les airs pour aller rejoindre Jésus-Christ sur une nuée. Et lorsque nous allons entrer dans le royaume de Dieu pour nous asseoir à cette table, manger, boire avec Jésus aux noces de l'agneau. Wow! 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, nous dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Je vous repose les mêmes questions. Êtes-vous excité par le retour de Jésus? Avez-vous hâte au retour de Jésus? Comment entrevoyez-vous son retour? Comment considérez-vous ou anticipez-vous ce jour? Ici, je vais faire une parenthèse. Moi, j'ai jamais aimé ces événements, mais combien de gens j'ai vu courir, se précipiter pour assister à de tels événements. Plusieurs personnes aiment aller assister à un match des Canadiens, au Centre Bell, un match de foot pour les Européens ou de soccer pour les gens de l'Amérique du Nord. Un match de basketball, le Super Bowl. Et là, je fais exception de personne. Là. Ça peut être chrétien comme non-chrétien, parce que oui, tout le monde, on a droit d'aller voir ces matchs. Rien qui nous empêche, à un moment donné, de prendre un temps et d'aller voir, d'apprécier, de passer du bon temps. Mais à chaque fois, il y a une frénésie. Il y a une excitation, une anticipation, une joie de se préparer à aller voir cet événement. D'aller assister, d'encourager notre équipe, go, go, go! Et de lever les bras en l'air lorsque l'un d'eux marque un but, de les applaudir, de les aimer, de chercher à vouloir les toucher lorsqu'ils passent près de nous, que ce soit des sportifs ou encore des vedettes de la chanson. La question que je me pose dans tout ça, c'est que si demain on vous annonce que Jésus sera en tournée dans tous les stades du monde, est-ce que les gens, et là, chrétiens comme non-chrétiens, seront aussi fébriles, auront une telle excitation, une telle frénésie également dans leur cœur de se préparer, de chercher à avoir des billets pour aller voir, à l'assister à cet événement, encourager, lever les bras au ciel pour dire « Yeah! » Est-ce que cette même frénésie, qui est très comparable, cette même excitation aura lieu. Permettez-moi d'en douter. Je m'excuse, frères et sœurs en Christ, mais permettez-moi de douter de ça. Permettez-moi de douter de ça. Parce que lorsqu'il y a de tels événements, les gens prennent le temps de planifier un congé de leur travail, d'économiser des sous pour se préparer, pour aller, s'ils doivent aller à l'étranger, pour pouvoir louer un hôtel, faire ceci, faire cela. D'autres, cependant, sont prêts à se lancer tête première. On sort de l'argent, on prend la carte de crédit et on y va. Parce que tout ça excite leur passion. la chair. Mais là, lorsqu'on parle de Jésus à ce sens-là, est-ce que les gens agiraient de la même façon? Permettez-moi d'en douter, et ça me désole. On doit se poser une question. Est-ce que le monde en général est prêt vraiment à recevoir le Seigneur? La question est non. Parce que, hélas, le monde n'attend plus le Seigneur. Le monde a laissé tomber. Le monde n'attend pas plus le Seigneur qu'autrefois les habitants de la terre n'attendaient le déluge. Les affaires de chaque jour continuent et continueront à absorber toute l'attention des hommes. Personne ne se souciera de Dieu ni de ses déclarations. Lorsque tout à coup, tous seront surpris par l'apparition en gloire de Jésus sur une nuée. Et c'est là que tous les événements actuels prennent leur place, leur sens, frères et sœurs, parce que Dieu nous parle au travers ces catastrophes. Dieu nous parle au travers cette pandémie actuelle qui nous touche, au travers ces morts, au travers cette angoisse, cette détresse, au travers ces pertes d'emploi, au travers notre vie sociale qui est chamboulée, bouleversée à jamais, nos vies professionnelles, familiales. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. C'est notre chance aujourd'hui de saisir cette opportunité. Aujourd'hui, comme au jour de Noé, le monde ajoute-t-il davantage foi au témoignage rendu par la parole de Dieu à la venue du Fils de l'homme? Poser la question, c'est y répondre. Tellement de chrétiens, lorsqu'on va dans Actes des Apôtres, espéraient voir le retour de Jésus de leur vivant. Imaginez toutes ces années qui se sont passées par la suite. Plus de 2000 ans se sont passés. Et à chaque fois, les gens espéraient, mais jamais ce temps n'est venu. Et à un moment donné, avec des gens, avec une société actuelle qui vit plus vraiment selon ses propres plaisirs, ses propres convoitises, qui cherche à déterminer tous les choix de sa vie par lui-même, eh bien, c'est encore plus regrettable parce que les gens ont vraiment cessé d'attendre, d'espérer. Et pourtant, ils savent, les gens savent que le retour de Jésus est imminent, mais ils ont tous cessé d'espérer. Moi, je vous dirais, frères et sœurs en Christ, vous avez entendu le son du chauffard tout à l'heure. Enregistrez ce son et repassez-le à l'occasion, chez vous, dans votre téléphone, à la maison, pour ressentir cette fébrilité, encore, encore et encore. Voyez-vous, il faut penser à une chose. Le retour de Jésus, c'est comme lorsque le déluge arriva. Noé disait aux gens, « Venez entrer dans l'arche. » Il n'y avait même pas de message de repentance à cette époque-là. « Venez entrer dans l'arche, si vous voulez, sauvez vos vies. » Les gens n'écoutaient pas Noé, les gens se mariaient, buvaient, mangeaient, faisaient tout ce qui lui plaisait, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et là, un jour, le déluge commença à tomber. Et le déluge n'a pas commencé à tomber par une petite bruine. Le déluge, lorsqu'il est arrivé, n'a laissé le temps à personne de faire quoi que ce soit. La porte de l'arche s'est refermée et tous ont péri. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs en Christ. Actuellement, l'arche est ouverte. La porte est ouverte. Mais il y a un grand déluge, un grand cataclysme qui s'en vient et la porte est sur le point de se refermer. Et lorsque la porte de l'arche se refermera, ce sont les portes du royaume des cieux qui se referment. Voyez, tous, sauf ceux qui avaient trouvé un refuge dans l'arche, les huit, Noé, son épouse, ses enfants et leurs épouses. De même que le jugement tombera bientôt sur ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ et n'ont pas trouvé en lui un surabri. Évidemment, c'est vrai que de nos jours, il n'y a pas extérieurement une grande différence entre les hommes et les chrétiens. Oui, ça fait mal ça. Mais c'est une réalité. Mais Dieu connaît les cœurs de tous. Et le Seigneur fait voir d'une manière frappante que dans ce jugement terrible, il y aura une distinction faite parmi ceux qui vivent selon le siècle présent et qui sont attachés aux choses du monde. L'un sera pris et l'autre laissée. Impossible de cacher au Seigneur l'état véritable de chaque âme. Frères et sœurs en Christ, avec quel sentiment attendez-vous ce jour si solennel? Pour tranquilliser votre cœur par la pensée qu'il est encore éloigné, peut-être voudriez-vous essayer de déterminer l'heure de son arrivée. Mais tous vos efforts seraient inutiles. Dieu n'a pas voulu que ce moment soit connu. Le Seigneur Jésus dit lui-même, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Plusieurs ont essayé d'en fixer le moment par leurs calculs, mais il doit rester caché, et il va rester caché. Ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts. Veillez donc! C'est la conclusion, c'est le message du Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Et là, il y a la parabole de Matthieu 24, versets 42 à 44, qui nous dit, « Et sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, eh bien, il veillerait, et puis il veillerait à ne pas laisser sa maison être volée, être percée, comme la Bible dit bien. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure où vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. » Alors, si nous ne voulons pas être pris au dépourvu, il faut veiller. Le retour de Jésus, le retour du Seigneur est certain. Le moment, lui, est caché. Voilà le premier enseignement de la parabole. Mais il y en a un autre, un avertissement très solennel, frères et sœurs en Christ, pour ceux qui s'attachent au bien de la terre et pour lesquels la venue du Fils de l'homme sera comme celle d'un voleur dans la nuit. Le chrétien ne doit pas avoir besoin de garder sa maison contre l'approche du voleur. Son cœur ne doit pas être attaché au bien de la terre, aux richesses, au matériel, de telle sorte que tout son souci doit les garder intacts en les cachant et en les protégeant. Mais sa part précieuse est d'attendre le Seigneur qu'il aime afin que, quand son maître arrivera, il lui ouvre immédiatement. Si son trésor est uniquement dans le ciel, son cœur y sera aussi. Et la vue de son Sauveur remplira son âme de joie. Parce que là, on dit dans la Bible, « Là où est ton cœur, se trouve ton trésor. » Mais pour le monde, le jour du Seigneur, lui, sera comme un voleur, car ils perdront les choses auxquelles ils étaient attachés. Et c'est là qu'il faut faire un discernement entre les deux types de personnes. Le vrai chrétien, qui ne s'attache pas au bien de la terre, aux richesses pécuniaires, matérielles, comme le monde, mais qui est chrétien. Et aussi, l'homme du monde normal. J'adresse cet avis aux chrétiens du monde parce que j'ai souvent prêché là-dessus et je vais toujours prêcher là-dessus. Force est de constater que beaucoup de chrétiens se sont laissés aller au travers de ces choses. Ils ont commencé à avoir de bons travails, surtout lorsqu'on parle en Occident, dans les pays industrialisés, dans les pays pauvres, c'est différent, mais plusieurs chrétiens vivent dans l'abondance, ont de belles demeures, de belles maisons, ne manquent de rien, ils sont attachés aux richesses. Malheureusement, au bien matériel également. Ça existe, il y en a. Quand bien même que des chrétiens me diraient « Non, mais tu es qui toi pour juger? » C'est vrai, frères et sœurs, ça existe. Veillez, faites attention à ces choses-là, chrétiens, frères et sœurs en Christ. Voyez-vous, voici ce que dit l'Esprit de Dieu à ce sujet par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils ne vont pas échapper. Mais vous, frères, vous qui n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Le jour du Seigneur est un temps de jugement pour ceux qui s'amassent des choses, des richesses sur la terre et qui vivent dans l'oubli de Dieu. À eux s'adressent ces paroles de l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 1. « Pleurez, gémissez à cause des misères qui vont venir sur vous. » Et c'est pour ça que je lance un avertissement aux chrétiens qui vivent ainsi. Oui, votre cœur est sincère, mais détachez-vous de ces richesses, des biens matériels, de l'argent. Détachez-vous, éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous. Mais pour celui qui connaît le Sauveur et qui souffre pour la justice de l'Éternel, il est écrit, « Usez donc de patience, frères et sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. La terre attend. Toute la création soupire. Tout est en désordre et sera mis à la renverse jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le gouvernement et Dieu le lui donnera, nous dit Ézéchiel 21:32. Un jour de joie, jour de récompense et de gloire pour les uns, mais pour les autres, ce sera un jour de colère et de l'indignation. Ne manquez pas la deuxième partie de l'émission sur notre podcast Radio Adoration.